L'émission qui suit est animée par un maniaque et comporte des propos stupides, virulents et quelque peu sarcastiques. Nous préférons vous en avertir.
Wake up! Vous écoutez présentement Wake Up avec Ismaël Trépanier de 6h à 10h pour le Québec et de midi à 16h pour l'Europe. Pour rejoindre l'animateur en ondes, de toute façon, vocalement et gratuitement via Skype ou écrivez via MSN à live@rocket.com.
De l'Ismaël, moi.
Et pas de soucis, rocket.com, présent! Wake Up! Le programme qui suit, un contenu controversé pour les 18 ans et plus. Wake Up!
Wake up, Ismaël Trépanier.
Veuillez saluer le maréchal Ismaël Trépanier.
32 secondes.
6h pour l'Amérique du Nord.
Midi à 16h pour l'Europe.
Right now.
Wake up!
Allô? Test 2, 3!
Je pensais pas que t'avais besoin de faire des tests, Akira.
Ah non! Non, pas du tout. Non, je faisais des tests pour ma voix radiophonique. Non, je faisais tout simplement des tests, là. J'ai, quand je parlais, justement, à une très bonne amie, en soirée, j'avais la voix de René Angélil, un peu comme le petit cave hier, là, qui se faisait... Hein, des accroirs, là. Gilles Gauthier, là, qui a écrit une chanson.
Ah, ça, c'est ordinaire. C'est incroyable.
C'est grave. Oh.
Vraiment, on fait dans la connerie au Québec.
Non, mais le gars était content. L'arrête était chien, là. C'était pour être gentil avec Mme Bourget. Puis en passant, Anne Bourget est rendue en arrière dans les sondages.
30% comparativement à 38% pour Régis Labeaume, sérieusement. Comment ça a été que les gens se réveillent?
Hey, on va voter pour Anne Bourget!
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes heureux de vous le présenter. Il a voulu participer à l'élection de Québec. Woo! Voici Mick Jagger.
Yeah!
Hello, Québec, today. I'm Mick Jagger. Bien chanté pour Anne Bourget.
Crise de con, man. Crise de con. Excusez-moi, là, mais c'est un crise de con. Je sais pas, il a quel âge? Il est plus vieux que moi, ce gars-là. Crise de con. OK, là? J'espère que ça va aller à ses oreilles. Crise de con. C'est quoi cette crise de con-là de Gilles Gauthier à marde?
C'est un con.
Si bol. C'est... What the fuck, man? Le gars... Hey, ici, c'est ma gangue! Hey!
On appelle ça un gars qui essaie de se rendre intéressant.
Hé! Hey, à gauche, je vais me faire de la pub!
I'm calling her Annie! Annie à la mairie! Yeah, that's right! Elle se présente à la mairie. Elle est belle et énergique. Ouais, c'est Annie! Yeah!
Ça, bah ouais!
Dieu écœuré,
C'est assez, là, d'emmerder le monde, là. Je m'excuse. Non, désolé. Je suis vraiment désolé. On va se brancher à M. Reichmann.
Oui.
On va se brancher à Claude Reichmann. J'aimerais juste lui faire entendre la journée du chèque. Ce serait drôle.
Oui. Hein?
Ben oui, pourquoi pas. Je ne sais pas s'il va accepter. Là. Écoute, il y a quand même... il nous accorde ce temps-là si précieux. De sa part, je ne voudrais pas non plus ambitionner sur son temps. Alors, Claude, je veux lui faire connaître un peu la mentalité du Québec.
Oui, la culture québécoise.
Ah oui, la culture québécoise avec notre ami Plume la traverse. Parce que c'est la journée du chèque. Alors,
en fait, c'est demain, sauf qu'il faut la passer quand même.
Ben, En réalité, c'est aujourd'hui parce que le 3, c'est lundi et ils ont déjà émis les chèques.
Ils ont déjà émis les chèques.
Ben oui.
Okay, okay.
C'est comme ça que ça fonctionne. Okay. Monsieur Reichmann, je ne sais pas s'il nous entend en ce moment. Mais de nous faire un aussitôt, de nous faire un petit signe dès que ce sera possible. Alors, oui, la journée du chèque. Oui, la journée du chèque, j'aimerais partager ce moment avec M. Reichmann. Le gars, il est la grosse. Gros fou. Il y a je sais pas combien d'années qui nous séparent, moi puis M. Reichmann.
Voilà.
Ah, M. Reichmann, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Je vais très bien, M. Trépanier, et vous-même?
Ah oui, super, on est en pleine forme.
Parfait.
Je voulais partager avec vous aujourd'hui un moment précieux de notre culture québécoise, Monsieur Reichmann.
Oui, avec plaisir.
Ce que je veux partager est sous la forme de musique. Et oui, exactement. C'est un grand artiste du Québec. Il s'appelle Plume la Traverse.
Ah bon? C'est très joli, ça.
Oui.
C'est magnifique. Oui.
Oui.
C'est vraiment typiquement québécois.
Oui, on peut pas... Effectivement, M. Reichmann, je vous le fais pas dire. Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est une journée très spéciale. La chanson dure environ 3 minutes 13. Je veux la partager avec vous, car nous, ici, on est des fans. Nous sommes des fans de cette journée qui est spécial, c'est-à-dire la journée du chèque. Qu'est-ce la journée du chèque, Monsieur Reichmann?
Je ne sais pas du tout. C'est peut-être le chèque que vous allez m'envoyer pour notre participation à l'émission. C'est peut-être ça, non?
Oui, ça pourrait être ça aussi.
Bonne nouvelle. Champagne pour tout le monde.
Chut, il fallait pas le dire. Il fallait donner l'impression que je vous... Il fallait donner l'impression que c'est...
Ce sera un chèque de la lourdeur de Plume.
Oui, exactement. C'est exactement ça. Alors, Plume la Traverse, je ne sais pas si vous allez être capable de capter tous les mots avec précision, parce qu'il y a beaucoup de slang, hein, de joual québécois au travers de cette chanson. C'est pour fêter un événement spécial qui c'est pour les bien-être social, d'accord? C'est-à-dire ceux qui vivent de l'aide sociale. Un peu, c'est les mules chez vous du RMI.
C'est ça.
Alors,
c'est ça,
exactement.
Revenu minimum d'insertion.
Exact. Et cette chanson est pour célébrer la journée du chèque, célébrer lorsqu'on a... parce qu'ici, on s'amuse souvent à dire... riche un jour, pauvre 30 jours. Alors, pauvre 30 jours, oui.
On a tout dépensé le premier jour, c'est ça?
La bière coule à flot dans cette journée.
Oui, la bière coule à flot, les restaurants, c'est...
Bon, bien écoutez, voilà, en tout cas, une journée très gaie. C'est dommage qu'elle soit financée sur fonds publics, parce que ce serait mieux qu'elle soit financée par chacun.
Exactement, exactement.
Et on est encore plus gai quand on peut faire la fête pour avoir mérité l'argent qu'on a.
Voilà. Alors eux, on a souvent tombé dans les médias ici sur des cas qui dépensaient tout le premier. Et je vous dirais que c'est des fois des familles de génération en génération sur l'aide sociale, sur le BS,
oui.
Pour bien-être social.
C'est comme il y a des familles d'universitaires, des familles de médecins, des familles d'avocats, et là, il y a des familles d'assistés.
Oui, exactement. C'est vraiment... C'est triste que ça existe, mais je ne pouvais pas croire que l'humain pouvait être aussi crasse que cela, oui. M. Reichmann. Alors,
vous avez raison, on peut se demander, mais vous savez, si on a le temps, je vous raconterai l'histoire, qui est un sketch d'un humoriste français qui s'appelle Bernard Allaire.
Oui.
Je ne sais pas, vous le connaissez peut-être. On a le temps maintenant la chanson?
Oui, on a le temps maintenant.
Alors, je vais vous raconter. C'est vraiment l'illustration même de ce qu'est l'assistance. Alors, Bernard Allaire joue un sketch d'un personnage qui se promène dans les allées du bois. Il est très élégamment vêtu, il porte un chapeau, il a un manteau camel, il marche avec élégance, et à un moment, comme il fait un peu chaud, mais enfin, il est un petit peu plus chaud que son vêtement ne lui permet de le supporter, et donc il s'assoit pour se reposer un peu sur un banc, il ôte son chapeau, et il le pose à côté de lui. Vient une passante qui le regarde et qui met une pièce dans son chapeau. Alors le gars la okay. regarde avec stupéfaction, car il n'est pas du tout un mendiant, bien au contraire.
Non.
C'est quelqu'un qui est très à l'aise. Il la regarde, mais il ne sait que dire tellement il est stupéfait. Passe une autre personne qui met à son tour une pièce dans le chapeau, puis une autre, et puis encore une autre. Et à mesure que les pièces tombent, le gars s'affaisse complètement et il finit par ressembler à un clochard. Alors voilà, voilà le sketch que j'ai vu il y a des années et des années et qui était à mon avis génial.
Oui.
Parce qu'il est vraiment très illustratif de la psychologie de ceux qui tombent. Ce n'est pas gay évidemment, je ne dis pas qu'il faut en rire.
Non.
Même si l'humour a tous les droits, mais ceux qui tombent dans l'assistance et qui n'arrivent pas à s'en sortir finissent par en quelque sorte prendre l'allure de ce qu'ils n'ont peut-être pas au départ. Et d'ailleurs il y a une autre maxime qui est de Paul Bourget je crois, et qui
oui.
disait quand on ne vit pas comme on pense, on finit toujours par penser comme on vit. C'est-à-dire que quand vous êtes en contradiction avec vos propres... Là, je ne parle plus des assistés, mais je parle d'une façon générale de la cohérence qu'il y a dans les attitudes. Quand vous êtes dans une situation où votre vie ne correspond pas à vos principes, vous finissez par établir vos principes en fonction de votre vie.
Alors, êtes-vous d'accord, Monsieur Eichmann, sur un principe que je crois fondamental pour moi, un jeune homme de 30 ans,
oui.
que la richesse attire la richesse, et si on installe la misère, ben ça attirera, qu'on le veuille ou non, la misère. Il me semble que c'est une équation facile à comprendre.
C'est facile à comprendre, et c'est en même temps tout à fait vrai, parce que figurez-vous que nous vivons ça en France tous les jours, et notamment depuis hier soir.
Exactement.
M. Sarkozy a parlé à la télévision
oui.
pour essayer de faire avancer le problème du pouvoir d'achat. Mais figurez-vous qu'il n'a plus aucun moyen. Il s'est même exclamé à un moment, les caisses sont vides. C'est la première fois à ma connaissance qu'un président de la République dit les choses aussi crûment. Les caisses sont vides. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus rien faire. Et c'est l'illustration de ce que vous disiez tout à l'heure.
Exact.
On a installé la pauvreté en France à force de distribuer de l'argent, à force d'empêcher les entreprises de travailler, à force d'assister les gens, à force de rendre le travail de moins en moins rentable et de moins en moins...
Tout à fait.
De le récompenser de moins en moins, et donc on a fini par créer une véritable, comme disent les énarques maintenant, une trappe à pauvreté dont on n'arrive pas à sortir. Et le seul problème qu'a la France actuellement, et là je vais vous faire une révélation qui va peut-être vous surprendre,
d'accord.
c'est que nous n'avons le choix actuellement qu'entre le chaos et le chaos. C'est-à-dire que
oui.
en réalité, il y a tellement de gens qui croient avoir tel et tel avantage acquis. Il y a tellement d'argent qui tous les jours sort des caisses publiques pour aller, on ne sait où, bien souvent. Bref, nous sommes dans une telle situation de déficit et de contrôle désormais perdu des finances publiques que la seule solution, et elle est tout à fait classique dans ces cas-là, c'est le chaos. C'est-à-dire qu'il va venir un moment où on décrétera qu'il n'y a plus moyen de payer telle ou telle chose et de fil en aiguille, l'ensemble des paiements se fera absent et nous aurons une situation qui est finalement la seule qui est possible lorsque un peuple n'arrive plus à régler ses problèmes, c'est-à-dire que tous les droits acquis sont ramenés à zéro. C'est-à-dire que vous avez toujours vos droits acquis, mais ils ne valent plus rien.
Peut-être.
Et, donc, souvent, et oui, c'est la seule façon souvent de sortir d'une situation pareille.
Alors,
moi, je ne dis pas qu'un véritable homme d'État ne parviendrait pas à le faire. Si la France était maintenant dirigée par un ou plusieurs véritables hommes d'État, ils prendraient les mesures nécessaires, et notamment la réduction des dépenses publiques, pour que la France s'en sorte. Mais malheureusement, nous sommes gouvernés par des gens qui, depuis 30 ans, n'ont jamais su rien faire d'autre que de dépenser l'argent des contribuables, sans jamais faire d'économie, qui ont augmenté de manière absolument délirante le nombre de fonctionnaires, le nombre d'assistés,
exact.
Les dépenses parfaitement inutiles, etc., etc. Et si bien que nous sommes dans une situation de perte de contrôle des dépenses publiques. C'est pour ça que nous qui étions relativement optimistes il y a encore un certain temps, un an ou deux, on se disait peut-être à la fin des fins, l'élection présidentielle finirait par ramener quelqu'un qui réglerait au moins l'essentiel des problèmes, eh bien on s'aperçoit aujourd'hui que le gouvernement tel qu'il est et le président de la République ont perdu totalement le contrôle de la situation. Et donc on peut s'attendre à des événements d'autant plus détestable ouais. que le Canada, puisque nous sommes avec vous au Canada,
oui.
a au niveau fédéral réussi en moins de 10 ans
mais,
à établir ses finances publiques.
Si vous faites un recul, M. Eichmann, et vous regardez tout ça, vous n'avez pas le goût de quitter au lieu de vous faire, excusez-moi l'expression, mais baiser par des gens qui ont voler l'argent des contribuables, carrément. Parce que là, Sarkozy qui dit, ouais, bon, on a vidé les caisses, il n'y a plus, les caisses sont vides, d'accord. Sarkozy voilà. qui dit ça, là, c'est parce que c'est quand même lui qui est responsable d'une certaine façon.
Alors, il fait partie de ceux qui ont vidé les caisses, effectivement,
oui.
puisqu'il il a été au gouvernement pendant de longues années.
Exact.
Bon, il a même été ministre des Finances pendant quelques mois. Mais surtout, il fait partie d'une coterie politicienne qui a vidé toutes les caisses depuis 30 ans. Et en effet, ses propos sont, on pourrait dire, ou complètement inconscients, ou totalement scandaleux s'il est cynique. Mais ce qui est l'illustration même du propos que je tenais, c'est la comparaison oui. qu'on peut faire avec des pays comme la Suisse, comme le Canada, qui au niveau fédéral, comme je vous le disais, a réussi depuis une dizaine d'années, et assez vite d'ailleurs, et notamment en réduisant le nombre des fonctionnaires, à rétablir ses finances publiques, mais si bien qu'aujourd'hui, vous avez la chance au niveau fédéral d'avoir des impôts qui vont baisser, ce qui est loin d'être le cas en France. Donc ça prouve bien qu'on peut le faire, mais ça prouve aussi que pour le faire, il faut d'abord un minimum, il faut que les hommes politiques aient un minimum de qualité, et il faut qu'il y ait un minimum de consensus dans un pays. Or en France, étant donné qu'il règne la pensée unique, et qui consiste à dire qu'aucun système n'est meilleur que le nôtre, et par conséquent, toute proposition de modification de ce système se heurte immédiatement à des protestations, à des manifestations, à des grèves, au blocage des routes, au blocage des voies ferrées, enfin bref, une situation apocalyptique, si bien qu'on ne peut toucher à rien, et qu'aucun homme politique jusqu'à présent n'a eu le courage de s'attaquer vraiment à cette situation, qui exigerait au contraire une mobilisation publique. Mais ça n'est pas le cas, et on sent bien, d'ailleurs les commentateurs ne s'y sont pas trompés aujourd'hui à propos de l'allocution d'hier soir de M. Sarkozy, ils ont tous indiqué que vraiment les caisses sont vides et que finalement il n'y a plus moyen de faire grand-chose.
Alors, je vous repose la question, M. Eichmann, oui. est-ce que vous auriez le goût, est-ce que vous avez envie de quitter pour vous installer ailleurs, ou bien parce que vos racines sont ultra implantées, où est-ce que vous êtes en ce moment, vous empêche de le faire? Ou enfin, est-ce que vous avez l'impression que beaucoup d'obstacles seraient à enjamber de votre côté pour quitter?
Non, de mon côté, il n'y aurait pas d'obstacles de caractère culturel, puisque okay. je parle plusieurs langues et que d'autre part, j'ai beaucoup voyagé, je connais les différents pays, mais il est
vous
vrai
êtes,
que je suis très, très attaché à mon pays,
okay.
d'une part, et d'autre part, surtout, que... je pense que, comme le disait Danton, on n'emporte pas sa patrie et la semelle de ses souliers.
C'est vrai.
J'ai pris des responsabilités nombreuses dans la vie publique depuis longtemps. J'ai toujours plaidé pour que l'on prenne des mesures énergiques visant à rétablir la situation. Je ne veux pas non plus me mettre dans la peau de quelqu'un qui fuit. Donc, je reste en place et je reste au poste, fidèle au poste, pour essayer de faire changer les choses. Car
alors,
je crois que l'immigration n'est pas une bonne solution. Cela étant dit, il y a 2,5 millions de Français jeunes pour la plupart, parfois moins jeunes d'ailleurs, qui sont partis, et je les comprends très bien, parce que quand vous n'êtes pas dans la même situation que moi, c'est-à-dire quand vous n'avez pas de responsabilité publique, seul vous importe votre situation privée, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, un jeune, quelle que soit sa formation, n'a aucun avenir en France. Son seul avenir, c'est de payer des impôts, de payer la dette immense qui s'est accumulée ouais. au fil des décennies. C'est... Et quand il voit cela, il préfère aller ailleurs, où il sera en général beaucoup mieux accueilli et où on ne considérera pas que la réussite est un péché.
Je vous en ai souvent parlé, on se ressemble énormément, même si on a 400 ans de différence.
Oui,
par rapport
450.
Oui, quelque chose comme par rapport au Québec et à la France, le fait
oui,
que les... bon
oui.
bon voilà et ce qui est drôle, c'est que on est hyper taxé comme en France, mais partout dans oui. le Canada anglophone, non, du tout, ce n'est pas ouais, la même oui. chose, l'imposition n'est pas la même. C'est drôle, on dirait que c'est typiquement anglophone de ne pas imposer, mais de responsabiliser les gens qu'on va imposer beaucoup moins. Ils devront se débrouiller par eux-mêmes un peu plus que sur le côté francophone qui est très maternel, maternisant, pardon.
Oui.
Oui, qui va couver beaucoup trop et qui finit par étouffer les contribuables, M. Reichmann.
Vous avez parfaitement raison. Et d'ailleurs, on retrouve le même phénomène qui n'est probablement pas lié simplement à la langue, à l'anglophonie, parce que en Belgique actuellement, vous savez que depuis 6 mois, la Belgique ne parvient pas à se donner un gouvernement parce qu'il y a un désaccord fondamental entre les Flamands et les Wallons. Les Flamands sont des gens qui parlent donc le flamand par définition,
oui, oui.
C'est une langue germanique, mais ce n'est pas un obstacle de caractère linguistique, c'est un obstacle essentiellement de civilisation. Les Wallons sont finalement socialisés, mais au plus mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'ils sont écrasés de charges et d'impôts, alors que les Flamands ont réussi à se libérer quand même d'une bonne partie de ces charges. Et les Flamands aujourd'hui ne veulent plus subvenir aux dépenses publiques des Wallons. Donc, je résume la situation rapidement pour ne pas perdre trop de temps là-dessus. Mais le fond du problème, il est là. Il y a deux attitudes dans la vie. Et ça dépend parfois de la civilisation dans laquelle on vit, mais ça dépend surtout des positions politiques qu'on a. La position de gauche consiste à dire nous sommes pour l'égalité et nous voulons que tout le monde soit exactement au même niveau, et pour ça, eh bien, on va prendre à ceux qui ont plus et on ne leur redonnera rien. Ça, c'est le socialisme et le communisme. Et puis il y a la droite qui est pour la liberté. Alors ça ne veut pas dire qu'on soit égoïste systématiquement, ni qu'il faille ne pas venir en aide aux misères du monde, mais il faut le faire de manière raisonnable d'une part, et dans son propre pays, la meilleure façon de ne pas avoir trop de misère, de ne pas en avoir du tout, c'est justement de laisser l'initiative individuelle se développer et de faire que l'État soit aussi léger que possible, car à ce moment-là, les gens, d'une part, retrouvent la prospérité, et d'autre part, se sentent beaucoup plus responsables. Vous savez, dans les rues françaises actuellement, et surtout à Paris, vous avez en permanence des gens qui mendient. Alors, bien entendu, beaucoup de ces mendiants sont de faux mendiants. Ils sont là, j'en vois en particulier, qui passent leur temps à dire « j'ai faim », ils sont gros et gras. Et c'est quand même assez extraordinaire pour quelqu'un qui a faim. Ou alors, il a besoin de manger plus que de n'importe qui. Mais cela dit, il y a une vraie misère quand même. Il y a aussi de vraies misères. Seulement, le problème, c'est que vous êtes tellement sollicité par des impôts, par des taxes,
des associations.
Il y a des téléphones en permanence. Donc, vous n'avez même plus à cœur de faire l'aumône. C'est un sentiment. Vous en perdez même le goût de la charité. Alors que, normalement, la charité, ça fait partie des qualités humaines. Donc, vous voyez, tout milite en faveur d'une baisse des impôts et d'une baisse des obligations.
Ah!
J'avais
une question. Est-ce que les Français. Parce que nous, dernièrement, on a vu que les Québécois sont plus cons que je pouvais le croire. Je me pose de sérieuses questions sur le QI des Québécois moyens. Je ne veux pas dire que j'ai un QI au-dessus de la normale, non, ce n'est pas ça, mais moi, en temps normal, lorsqu'on me parle de baisse d'impôts, je veux une baisse d'impôts, d'accord? Et c'est tout à fait normal parce qu'on est la province la plus taxée en Amérique du Nord, M. Reichmann. Alors, est-ce qu'on a déjà fait un sondage par rapport aux baisses d'impôts? Seriez-vous en accord? Est-ce que vous seriez favorable pour une baisse d'impôts? Oui ou non? Est-ce que les Français ont déjà répondu non à forte majorité pour quelconque raison? Car nous, ici, les Québécois sont pour les augmentations d'impôts. Moi, je comprends plus rien, là.
Ils sont pour les augmentations d'impôts, peut-être pour les autres, non? Parce que... Si...